Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre journal, le journal des auditeurs. Chaque jour, du lundi au vendredi, Africa Radio vous donne la parole dans le JDA. Ce jeudi, dans le journal des auditeurs, je vous propose de lancer le débat sur la situation en Syrie et l'utilisation des réfugiés, de la pression migratoire par le président turc Recep Tayyip Erdogan en guerre contre la Syrie, a facilité l'arrivée de milliers de réfugiés syriens à la frontière grecque, causant des tensions avec l'Union européenne. On a même vu des gardes-côtes grecs s'en prendre à des bateaux de migrants. Alors que pensez-vous de ce chantage? Et plus généralement, que se passe-t-il à Idlib en Syrie? Y a-t-il un risque d'affrontement direct entre la Turquie et la Russie? Qu'en pensez-vous? Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, sera avec nous par téléphone pour répondre à toutes vos questions. Pour participer, nous faire part de vos commentaires, poser toutes vos questions sur ce sujet, composez dès maintenant le 33 1 55 07 58 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp ou alors notre page Facebook, facebook.com/journal des auditeurs. Je lirai bien sûr vos commentaires, mais d'abord, sans plus tarder, vous connaissez la tradition, on se tourne vers le répondeur d'Africa Radio pour écouter une sélection de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour les amis du JDA, c'est Touré. Au Mali, pourquoi les religieux aujourd'hui sur le terrain? Parce que réellement, la politique a failli. Les politiques ont failli. Ils ont failli. Ils n'ont aucune crédibilité. Ils n'ont... Personne ne croit. Et encore, la corruption, le détournement de fonds, on n'en a plus, ils ne sont plus écoutés aujourd'hui. Donc le pays a affaibli et ceux qui sont écoutés, ce sont les religieux. Il n'y a que la religion qui mobilise au Mali, il faut que les gens sachent ça. Et moi, je crois qu'en ce temps, à la fin, au Mali, ce sont les religieux qui vont le prendre du sud.
Amis auditeurs, bonjour. Voilà, j'interviens parce que j'ai écouté un frère africain qui s'intéresse particulièrement du Cameroun à sa manière. Le dénommé, je crois, est Idriss. Bon, je pense qu'il a souligné un petit point sur le problème de Macron et le Cameroun en parlant de la non-indépendance du Cameroun vis-à-vis de la France. Et je voudrais simplement lui dire que le Cameroun n'a pas des moyens matériels pour s'opposer entièrement à la France, mais elle essaye. Pour cela, j'ai pour preuve, vous voyez très bien, mon cher ami, que le Cameroun a son armée qui se bat, qui essaye de garder son unité sans avoir besoin d'une armée externe pour placer un président, par exemple. Voilà. Et quand il parle d'élection, il n'était pas question ces derniers temps d'une élection présidentielle, il était question des législatives, entre autres, dont je pense que quand on s'intéresse à un pays, même pour d'autres raisons, on essaie tout au moins d'avoir l'information réelle. Voilà, à très bientôt.
Bonjour. Bonjour toute l'Afrique. De la part de Monsieur Ba. Voilà, j'espère que on doit comprendre certaines choses. Si la France y impose toujours, n'est pas vraiment colonisée. Lorsqu'il récupère ses sortissants en Chine, normalement, il doit récupérer avec toute l'Afrique comme ils prétendent, comme quoi c'est eux qui nous gouvernent toujours. Normalement, il ne doit pas récupérer seulement les Européens. Voilà, en conséquence, c'est la France qui contamine l'Afrique maintenant. Pourquoi la France existe si on quitte d'Afrique? On doit juste contrôler avant qu'on rentre à l'avion. On est tous contrôlés. Mais pourquoi les gens qui quittent en France, ils ne sont pas été contrôlés?
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour, les amis de JDA, le peuple africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo et le RCK. La maladie coronavirus, une grande épidémie qui fait des ravages dans le monde entier. Mais l'Afrique, c'est un grand continent où nous serons épargnés, même s'il y a des cas isolés. Mais vous savez que chez nous, en Afrique, ça sera difficile pour combattre cette maladie. Parce que il n'y a pas d'infrastructure médicale. Mais nous savons que nous, le peuple africain, il y a beaucoup de difficultés, mais cette maladie-là, nous croyons, ça ne fera pas de ravages dans notre continent.
Bonjour, je suis hospitalisé à l'hôpital Salpêtrière, mais j'ai eu le courage, la force de vous appeler pour exprimer mon indignation. Je suis tellement en colère contre une Ivoirienne. Comment une femme peut appeler à brûler des étrangers en Côte d'Ivoire alors qu'elle-même vit en Europe? Madame, nous attendons que vous présentiez vos excuses à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Faites-le rapidement, s'il vous plaît.
Alors, bonjour, Gidea. Bonjour, Stéphanie. Je suis toujours Pierre de la République démocratique du Congo. J'interviens souvent à la radio depuis une dizaine d'années. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler de ce phénomène qu'on appelle combattant chez nous au Congo. Donc, vraiment, chers frères, arrêtez de faire n'importe quoi. Si vous voulez combattre, allez au Congo, dans l'est du pays, pour aller combattre là-bas. Parce qu'il y a des groupes de rébellion, hein, on le sait bien. Mais l'État fait tout, l'armée congolaise fait tout pour arrêter tous ces conneries-là. Donc, je demande à tous nos musiciens de faire leurs concerts partout dans, où ils sont. Donc, en Amérique, en Europe, tout ça, pour valoriser notre culture, ça c'est normal. Alors, je félicite Fally pour son concert, c'est normal. Il faut que quelqu'un puisse braver tout ça pour montrer quand même que l'État est au-dessus de tout. Donc, ce n'est pas un groupe de voyous qui doivent interdire notre culture de s'exprimer.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. On souhaite un bon et prompt rétablissement hein, à l'ensemble des auditeurs hein, qui nous écoutent depuis leur chambre d'hôpital ou ailleurs d'ailleurs. Merci, je l'ai dit à tous pour vos messages. Aujourd'hui dans le JDA, hein, le chantage de Recep Tayyip Erdogan à l'Union Européenne. Le président turc a-t-il raison d'utiliser la pression migratoire pour demander un soutien à l'Europe? Pour en parler, nous accueillons Emmanuel Dupuis. Emmanuel Dupuis, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour aux auditeurs.
Merci d'être avec nous. Hein. Vous êtes président de l'IPSES et l'Institut en prospective et sécurité en Europe. Tout d'abord, Emmanuel, un point sur la situation en Syrie, à Idlib. Quelles sont les forces en présence et comment expliquer qu'actuellement la Turquie affronte plus ou moins l'armée syrienne?
Alors, déjà, la Turquie n'affronte pas que l'armée syrienne. La Turquie affronte l'armée syrienne et de facto l'armée russe qui soutient l'offensive du régime syrien. Il faut avoir à l'esprit qu'il y a plus ou moins 1 million, 1 200 000 personnes qui vivent dans cette poche d'Idlib qui est la cible, si j'ose dire, en m'exprimer ainsi, de la Turquie depuis longtemps, puisque la Turquie avait lancé un certain nombre d'opérations militaires précédentes. Donc on en est à la 4e opération militaire turque en territoire syrien et depuis août 2016, et précisément en janvier 2018, une opération qui s'appelait Rameau d'Olivier, qui portait très mal son nom, avait déjà été lancée par la Syrie, par la Turquie, pour tout simplement prendre ancrage, si j'ose dire, au sein du territoire syrien. La Turquie ne cesse de revendiquer le fait qu'il en va de sa sécurité le long de sa frontière qu'elle partage avec avec la Syrie, et notamment parce que elle estime que des groupes qui soutiennent le régime et le régime lui-même pourrait porter atteinte à la population qui, de facto, est en train de quitter le territoire syrien pour aller en territoire turc. Donc ça, c'est une première revendication. Maintenant, la Turquie n'est pas seule, puisqu'elle soutient ou elle arme un certain nombre de groupes armés terroristes que nous considérons comme terroristes, qu'elle ne considère, elle, pas comme terroristes. Et bien évidemment, on a à l'esprit un groupe qui s'appelle HTS, qui s'appelait auparavant le Front Al-Nosra, et un certain nombre de milices qu'elle a armées et qui pour lesquelles elle justifie cet armement, puisqu'ils s'opposent au régime de Bachar el-Assad. Et puis, entre-temps, comme je le disais, la Russie est rentrée dans cette conflictualité sur la base d'ailleurs d'un accord, mais je pense qu'on y reviendra, entre la Turquie et la Russie pour tenir compte de sa volonté de déconfliter et de mettre en place des zones de désescalade. Parmi les quatre zones de désescalade, le long de cette frontière, 1200 km, Idlib était la première zone de désescalade sur laquelle il y avait un accord, donc aboutissant à une trêve qui malheureusement a volé en éclat entre la Russie et la Turquie.
Oui, alors effectivement, vous allez nous expliquer ce qu'on pensait, peut-être, on avait cru comprendre que la Turquie et la Russie étaient alliées. Cependant, au regard de ce que vous venez de dire, Emmanuel, est-ce qu'on peut dire que la Turquie aurait une volonté d'annexion de cette partie de la Syrie? Et est-ce que finalement elle veut contrôler ce territoire, cette poche d'Idleb, en raison peut-être des Kurdes du PKK, c'est ça, un peu?
Alors, il y a... En partie, c'est ça. Mais l'annexion est peut-être un mot un petit peu trop exagéré. La volonté de la Turquie, c'est de créer des zones d'exclusion aérienne, premièrement, et des zones tampons. D'ailleurs, elle revendique le fait qu'elle est intervenue en Syrie pour la quatrième fois. Je rappelais août 2016, bouclier de l'Euphrate, janvier 2018, rameau d'Olivier, octobre 2019, source de paix, toujours avec des noms qui ne correspondent pas tout à fait à la dureté paradoxe. Et malheureusement au caractère très meurtrier de ces opérations. Et depuis quelques jours, bouclier du printemps. Le but de la Turquie n'est pas forcément d'annexer des territoires syriens, mais de faire des zones d'exclusion dans lequel l'armée syrienne ne peut pas rentrer pour, évidemment, comme vous le dites, tenir compte de cette dangerosité qu'elle estime toujours aussi forte de la part de militants kurdes, des militants kurdes donc qui ne sont pas tous liés au Parti des travailleurs kurdes, organisation qu'elle considère comme terroriste et pour lequel elle a arrêté son chef Öcalan en 1999, mais que évidemment qui d'une certaine façon sont les alliés objectifs de la Syrie. Juste un petit point, je suis pas tout à fait sûr que l'on soit dans une conflictualité entre la Turquie et la Russie. Je crois qu'au contraire, il y a un jeu de dupes qui considère qui met en avant plutôt le fait que la Turquie et la Russie peuvent s'entendre sur un certain nombre de présupposés. Il y a d'ailleurs eu, durant les dernières heures, une volonté de minorer le fait que, lors des dernières opérations qui ont coûté la vie à 35 militaires turcs, vraisemblablement suite à une frappe russe, dans le narratif et dans la médiatisation et la manière dont c'est présenté au niveau de la Turquie, il n'est jamais fait mention de la Russie, mais de la Syrie.
Alors oui, effectivement, c'est ce que finalement vous dites. Même si l'armée russe peut être responsable de la mort de soldats turcs ces dernières semaines, on n'est pas dans un conflit ouvert entre Ankara et Moscou. Et on précise aussi, Emmanuel Dupuy, que Recep Tayyip Erdogan est aujourd'hui à Moscou, justement.
Absolument. C'est pour ça c'est ce que j'appelle volontairement un jeu de dupes, où on sait pertinemment que la Russie a expliqué à la Turquie quelle était la ligne rouge à ne pas franchir. De la même manière, Erdogan aurait dit à Vladimir Poutine « Laissez-moi faire, laissez-moi m'en prendre au régime ». Donc la Russie a tapé du poing sur la table, la Turquie a tapé du poing sur la table, mais comme l'un et l'autre sont partenaires, sont d'autres dossiers, bien évidemment. On pense à la question iranienne, d'une certaine façon aussi à la question libyenne. Et de facto, la Turquie est quand même davantage proche de Moscou qu'elle n'est de Washington, même si le président turc, dans son incongruité, a fait un appel pressant pour que l'OTAN et singulièrement les Américains l'aident militairement contre la Russie, mais tout le monde sait pertinemment que la Turquie n'a aucune envie, et bien évidemment la Russie non plus, d'aller dans une conflictualité ouverte. Donc on fait porter au régime syrien des opérations qui ne sont pas menées uniquement par elles-mêmes, et bien évidemment on est dans une guerre là beaucoup plus ouverte entre l'armée syrienne et l'armée turque. L'armée turque a abattu deux avions syriens, les Syriens ont abattu des drones. La seule ligne rouge sur laquelle les deux présidents se sont mis d'accord, le président turc et le président iranien, c'est qu'on laisse voler des drones pour mener à bien un certain nombre d'opérations, mais d'une certaine façon limitée, mais pas au-delà.
On va donner la parole dans quelques instants aux auditeurs hein, qui commencent à arriver au standard, mais on va arriver au cœur. Hein, juste merci beaucoup Emmanuel hein, pour cet état des lieux hein, de la situation qui est complexe hein, quand même, il faut le reconnaître. Du coup, face à ces difficultés, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est tourné vers l'Union européenne et a menacé hein, l'Europe de déverser ces mots hein, des milliers de réfugiés aux frontières de l'Europe. Qu'attend Recep Tayyip Erdogan de l'Union européenne?
Alors, je modérerai un petit peu votre propos, je le corrigerai peut-être davantage. C'est pas tellement un appel à l'aide, c'est une prise en otage de la position européenne. Car, pour l'instant, il n'a, entre guillemets, que laissé fuiter 13 000 migrants donc qui sont partis d'Istanbul. Maintenant, on le sait à travers un certain nombre de témoignages avec l'aide tacite du gouvernement turc, c'est-à-dire la mise à disposition de taxis, l'accès à des bus, l'affrètement de bus, la mise à disposition de tickets de transport en commun pour aller donc d'Istanbul vers la frontière avec l'Union européenne, c'est-à-dire la Bulgarie un peu et la Grèce beaucoup. Donc le président Erdogan est en train de mettre une pression sur l'Union européenne. C'est d'autant plus singulier que l'Union européenne s'était mise d'accord en 2016 avec le président turc pour que la Turquie prenne en compte sur son territoire la question des réfugiés. Il y a pour l'instant 4 millions de réfugiés sur le territoire turc, parmi lesquels 3,6 viennent de Syrie, mais l'Union européenne et la Turquie s'étaient mis d'accord, d'un commun accord si j'ose dire, pour que entre 2016 et 2026, l'Union européenne débourse quand même la somme de 6 milliards d'euros pour aider la Turquie dans ce processus. La Turquie s'estimait absolument pas lésée puisque cet accord était accompagné d'une relance du processus de négociation d'adhésion. Souvenons-nous qu'en mars 2019, le Parlement européen avait voté à une petite majorité la suspension de cet accord de partenariat ou cet accord d'association, justement parce que la Turquie montrait beaucoup de difficultés et ne se montrait pas tout à fait conforme à l'idée que on s'était fait d'un processus d'adhésion qui avait été lancé en 2005.
Une histoire compliquée entre la Turquie et l'Union européenne. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis. Restez à l'écoute. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs. On commence avec Manjou. Manjou, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Bonjour Manjou. Allez-y, vous dites hein, finalement c'est pas du chantage. Le président turc cherche à se protéger, c'est ça?
Il cherche à se protéger. Vous savez, tout est parti de... lorsque les Américains ont quitté le terrain.
La coalition internationale qui combattait l'État islamique en Syrie et en Irak. Hein.
Voilà, ils ont quitté la zone où la Turquie maîtrisait. Et donc, depuis ce temps-là, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un certain Bernard Ahmed qui crée sur tous les toits, demandant à bombarder Erdogan. Parce que, soi-disant, il massacre les Kurdes. Et le problème de cette zone-là, c'est bien les Kurdes. Vous savez, il y a apparemment 10 millions de Kurdes parmi les 84 ou je ne sais pas combien de millions d'habitants turcs. Et c'est des sécessionnistes. Maintenant, vous savez très bien, au jour d'aujourd'hui, aucun État n'accepte que son territoire soit divisé.
Intégrité territoriale.
On voit les cas au Mali aujourd'hui. Malheureusement, nous, on n'a pas les moyens. On se laisse faire une minorité du Touareg demande la partition du pays. C'est exactement le même cas en Turquie. Comme Erdogan, c'est la 9e puissance, la 9e armée du monde. Non, il ne va pas se laisser faire. Et les réfugiés qui se dirigent vers l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas des Syriens. La plupart, c'est des Afghans, c'est des Africains. Il y a un peu de tout. Et c'est lui qui les retenait. Comme venait de dire votre spécialiste, l'aide qui a été débloquée, combien de millions d'euros pour Erdogan, l'Union européenne a pu suspendre encore. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il les lâche. Vu que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est uniquement c'est comme les problèmes du Kremlin et l'Ukraine. Vous savez, il y a une zone où l'Ukraine voulait
l'épanouir. La Crimée, oui. La ligne se dégrade un peu, Manjou, mais... on a bien compris que... Ouais, allez-y.
Voilà. Et donc, le problème, c'est quoi? C'est d'avoir l'Union, que ce soit l'Union européenne ou d'autres pays qui veulent cette zone de la Turquie, tout pour pouvoir s'installer et déstabiliser la
Ouais. Donc, alors, bon, je pas très. Ça se dégrade un peu, mais je pense qu'on a compris un peu votre point de vue, Manjou. Vous parlez un peu de finalement, je ne sais pas si le terme est bon, de légitime défense de la Turquie. Mais Emmanuel Dupuis, je reviens vers vous. Il y avait plusieurs choses intéressantes, notamment Manjou évoquait que depuis alors vous allez peut-être me confirmer si c'est vrai, depuis le départ de la coalition internationale finalement qui a combattu Daesh, qui a vaincu Daesh, finalement la Turquie s'est-elle retrouvée isolée dans cette partie du monde et Manjou évoquait les craintes sécessionnistes hein, justement portées peut-être par une partie des Kurdes. Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Manjou?
Bah, écoutez, l'analyse de Manjou est partiellement vraie, je la partage en partie. Néanmoins, il faut rappeler le calendrier. La coalition internationale est partie parce que la Turquie a pénétré en territoire syrien et qu'il y avait une menace directe de conflit entre plusieurs pays membres de l'OTAN. Manjou a rappelé que la Turquie est non pas la deuxième armée du monde, mais la deuxième armée au sein de l'OTAN et qu'il y avait un risque direct d'affrontement entre les États-Unis et la Turquie, et singulièrement entre les forces spéciales françaises et la Turquie. Quand les Américains sont partis, c'est parce que la Turquie lui a mis une telle pression qu'il y avait l'obligation de partir. Et d'ailleurs, le président Donald Trump n'a pas demandé son reste, puisque c'était une vieille promesse de faire partir les soldats américains de Turquie. C'est partiellement vrai du reste, car une partie seulement sont partis, et il y a encore des troupes américaines qui protègent les infrastructures pétrolières. Donc vous voyez qu'il y a un accord de tacite où le régime syrien n'attaque pas les Américains, les Russes laissent faire les Américains, et les Turcs savent très bien où sont les Américains, les Russes et les Syriens. Néanmoins, votre auditeur a raison de dire que la revendication du président turc, c'est d'assurer sa protection, et notamment la protection le long de sa frontière. Passe face à des organisations qu'il considère, lui, comme terroristes, et c'est là tout le paradoxe, parce que ces mêmes organisations sont celles avec lesquelles nous combattons Daesh. Donc, en combattant le parti kurde de l'Union démocratique, le PYD, ou en combattant les unités de protection IPG ou les forces démocratiques syriennes, et il s'en prend à ceux qui ont vaincu Daesh.
Ça fait de lui un allié objectif de Daesh, si je peux me permettre.
Et donc, de facto, oui, et c'est pour ça que nous ne cessons de dire au président Erdogan que ce double jeu est fortement critiquable, car Daesh n'est pas vaincu en Syrie, et n'est pas vaincu non plus en Irak, et ça fait le jeu de Daesh. D'ailleurs, un certain nombre d'observateurs constatent que Daesh est en train de se repositionner loin de cette conflictualité entre les Kurdes et les Syriens, enfin, entre les Syriens qui met face à face les Syriens et les Kurdes face à la Turquie, et que bien évidemment cela ne fait que profiter au groupe armé terroriste qui de facto le président Erdogan est en train d'aider.
Merci Emmanuel Dupuis pour vos éclairages. On écoute Camara. Camara, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Camara. Vous êtes un peu loin, mais allez-y, on vous écoute.
Ouais, je ne suis pas loin, je suis dans ma voiture.
Ah oui, c'est le kit main libre, c'est-à-dire qu'on vous entend de loin, c'est pour ça.
Oui, attendez, je vais enlever.
Si vous pouvez, c'est bien, mais faites attention si vous conduisez. Okay. Alors, il faudrait couper la radio en même temps, du coup.
C'est bon, j'ai coupé la radio, c'est bon.
Bon, allez, c'est bon, on y va, c'est à vous.
D'accord. Moi, je voulais dire vraiment que l'Union européenne, ils ne sont pas cohérents quelque part. Parce que vous ne pouvez pas dire, c'est-à-dire à la Turquie qui c'est-à-dire la Turquie s'est engagée, c'est-à-dire dans cette conflit à deux, c'est-à-dire à deux fronts, parce que ils ont des problèmes avec leurs Kurdes, c'est-à-dire voilà, et puis le problème de l'Union européenne qui voulait lutter, c'est-à-dire contre l'immigration, mais à travers de la Turquie.
Vous avez dit au standard, vous avez dit l'Union européenne demande à la Turquie de faire le sale boulot sur les questions migratoires.
Voilà. Et le sale boulot, c'est quoi? Parce que tout ce qui est immigration aujourd'hui, là, le foot de l'immigration qui arrive en Europe ou qui arrive partout, c'est-à-dire c'est la France qui a engendré tout ça. Parce que s'ils n'avaient pas détruit la Libye, tout ça n'aurait pas arrivé. On n'allait pas dire qu'il n'y aura pas d'immigration.
Ça concerne aussi beaucoup la guerre en Syrie, mon cher Camara, qui a commencé à peu près...
Oui, la guerre en Syrie. Vous savez ce qui a engendré la guerre en Syrie? Parce que ce qui est arrivé à Libye, la Russie ne voulait pas que la même chose arrive en Syrie. C'est pour cela qu'ils ont maintenu Bachar
n'est pas bon. Cela dit, il ne faut jamais oublier que beaucoup de ces conflits sont nés aussi d'une révolte, et notamment en Syrie. Une partie de la population s'est quand même levée.
En Syrie, révolte, d'accord, révolte, mais si on laisse les pays eux-mêmes gérer leur situation sans s'en mêler, elle est très bien, ça allait quand même...
Je, On va demander à Emmanuel Dupuis ce qu'il en pense, mon cher camarade, mais on a bien compris que pour vous aussi, il y avait un peu de déstabilisation, hein, finalement, qui avait conduit à cette situation. Emmanuel Dupuis et camarade évoquaient d'abord le côté sous-traitance, finalement, de la politique migratoire de l'Europe à la Turquie. Est-ce que, finalement, l'Europe ne récolte pas la monnaie de sa pièce avec ce chantage, finalement, en tout cas, le revers de la médaille?
Alors, non, je ne sais pas. Tout à fait d'accord, pour plusieurs raisons. Premièrement, la plupart des migrants ne viennent pas de Turquie. La Turquie est un des facteurs, et un des lieux où effectivement, un des lieux de transit. J'ai évoqué le fait qu'il y a 4 millions de réfugiés turcs, mais ils ne se déplacent pas forcément tous vers l'Union européenne, tout simplement parce que l'Union européenne, que ce soit en Bulgarie et en Grèce, a fermé sa frontière. Il y a eu, malgré tout, 60 000 demandeurs d'asile en Grèce l'année dernière, et elle estime qu'il y en aura 100 000, mais ce sont des chiffres maîtrisés. On est très très loin des 1,5 million de migrants qui avaient traversé la Méditerranée de toutes parts, Méditerranée occidentale, à travers le Maroc, Méditerranée centrale, la Libye, et Méditerranée orientale, la Turquie, jusqu'à présent par mer et de plus en plus maintenant par terre. La moitié des réfugiés qui transitent de Turquie vers l'Union européenne maintenant traverse le fleuve Evros, donc qui matérialise les 200 kilomètres, 212 précisément kilomètres de frontière entre la Grèce et la Turquie. Donc je suis pas certain qu'il y ait cette volonté de sous-traitance. La Turquie a utilisé cette arme migratoire justement pour dire à l'Union européenne, j'ai le moyen, comme du reste Kadhafi l'avait fait dans son temps en Libye, et c'est là où j'en reviens à la comparaison que fait votre auditeur, en disant, si vous ne me donnez pas d'argent, si vous ne vous réinscrivez pas dans un processus inclusif au niveau politique, c'est-à-dire dans le but de rapprocher des positions qui jusqu'à présent étaient en train de se distendre, si j'ose dire, entre la Turquie et l'Union européenne, eh ben je mettrai la pression. Donc je suis pas certain qu'il y ait cette volonté de la part de l'Union européenne à demander à la Turquie de faire le sale boulot. Je crois qu'au contraire, la Turquie a une épée de Damoclès et a mis une pression supplémentaire sur l'Union européenne pour qu'elle réponde à cette injonction, d'où les 6 milliards d'euros qui ont été donnés. Je rappelle quand même que la Turquie est très bien lotie en ce qui concerne l'Union européenne, puisque depuis le processus d'adhésion en 2005, c'est 25 milliards d'euros que l'Union européenne a gratifié à la Turquie dans le sens ou dans la perspective du processus d'adhésion.
Merci Emmanuel. Justement, on va parler de l'Union européenne avec Mamadou. Mamadou, bonjour.
Oui, bonjour Madame Hachman, comment allez-vous?
Je vais très bien, et vous-même Mamadou, merci de votre patience.
Je salue à tous les auditeurs d'Africa Radio, et en tout particulier à celle de Gonesse.
On salue ceux de Gonesse, et ceux de Garges aussi à côté.
Exactement, pas loin. On peut aussi saluer celle de Villiers-le-Bel.
Montfermeil, Sarcelles.
Madame Hachman, pour revenir sur le sujet, et bon, j'écoutais l'invité, j'écoutais aussi surtout le précédent auditeur qui a dit les choses, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement une sous-traitance, parce que l'Union européenne, mais il faut le dire, le Moussé, il ne veut pas le reconnaître, il ne veut pas le dire. Mais il faut le dire, ils font de la sous-traitance, comme ils le font en Libye, comme ils avaient essayé d'installer, soi-disant, je ne sais pas quoi, le centre au Niger.
Au Niger, oui, c'est voilà, même donc, Gadez, oui.
Ça veut dire que l'Union européenne, leur frontière n'est plus avec la Grèce et tout ça, mais c'est jusqu'à en Afrique. Dans ce cas-là, s'il y a des autres personnes qui assument leur frontière, l'extérieur de l'Union européenne, mais attendez, ils ne vont pas le faire gratuitement. Au nom de quoi? L'Union européenne doit rentrer comme tous les autres.
Ah, on vous a perdu, Mamadou. On vous a perdu, mais je pense qu'on a bien compris un peu votre message. Et puis, je reviendrai vers vous, Emmanuel Dupuis, parce que Mamadou a dit aussi au standard où est la voix de l'Europe. Voilà, que propose l'Europe dans ce contexte, nous disait Mamadou. Je m'en aurai une réponse après. On va écouter avant cela Bramé. On a encore un peu de temps. Bramé, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Bramé.
Oui, moi, je vais parler.
Allez-y.
Oui, c'est que Erdogan est en train de dire, parce qu'il a vu que maintenant la guerre de Syrie, il n'intéresse plus les Européens. Maintenant, la guerre a été finie maintenant entre lui et son voisin. C'est pour ça quand ton voisin, quand les gens, ils disent, les vieux ils disent que quand la cage de ton voisin brûle, Donc, il faut te préparer pour toi. Mais lui, il a aidé les Occidentaux contre son voisin. Donc maintenant, les Occidentaux, ils sont retirés. Il a laissé les champs libres entre lui et son voisin. Mmh. Donc maintenant, lui, il est en train de faire le chantage pour avoir l'appui militaire et politique contre Assad. Voilà, donc c'est ça qu'Erdogan est en train de faire. Mais c'est regrettable ce qu'il a fait. Il a soutenu les Occidentaux contre son frère et contre son voisin.
Bah, c'est vrai que depuis, merci Bramé, on va peut-être nous éclairer sur les raisons, Emmanuel Dupuis, mais depuis le début du conflit syrien, la Turquie est accusée de soutenir les groupes rebelles contre Bachar al-Assad. D'où vient ce contentieux entre la Syrie et la Turquie?
C'est un contentieux géopolitique qui est ancien, et il n'est pas d'ailleurs que partagé par la Turquie. L'ensemble des pays avoisinant la Syrie ont profité, comme vous l'avez dit, d'une révolte populaire, qui est une révolte qui, effectivement, est une réalité, pour essayer d'affaiblir le régime de Bachar al-Assad. C'est vrai de la Turquie, mais c'est aussi vrai des autres soutiens des groupes armés terroristes que vous évoquez. Je pense notamment aux pays du Golfe. Il est un fait avéré que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar ont soutenu les groupes que actuellement soutient le président turc. Donc, d'une certaine façon, il n'est pas le seul. Néanmoins, il y a une nouvelle donnée, c'est qu'il y a une convergence de point de vue, une sorte d'accord entre la Turquie et la Syrie, et d'une certaine façon l'Iran. Je rappelle d'ailleurs que les trois sont les parrains d'un processus de stabilisation en Syrie, ça s'appelle le processus d'Astana, qui a été lancé en mai 2017, et qui devrait aboutir à une stabilisation politique au niveau de la Syrie. Donc il y a des intérêts convergents qui ne répondent qu'à une seule réalité, et ça a été un petit peu évoqué par votre auditeur, la volonté de puissance du président Erdogan, qui ne s'exprime pas que vis-à-vis de la Syrie, qui s'exprime vers les Balkans occidentaux, qui s'exprime vers le Maghreb. Le président Erdogan regarde avec beaucoup d'attention sa mobilisation militaire avec le même intérêt du reste en Libye. Pourquoi ? Parce qu'il en va non pas d'une confrontation contre la Syrie, mais une confrontation que le président turc veut réexhumer contre la Grèce. Et c'est ça dont il est question aujourd'hui. C'est qu'il y a une volonté et un moyen de pression qui est mis contre l'ennemi héréditaire qui est la Grèce, celui qui empêche la réunification de l'île à son profit. Je rappelle que il y a deux Chypre, une Chypre qui a intégré l'Union européenne en 2004 et une partie du pays, la République turque de Chypre Nord, qui n'est reconnue que par la Turquie et singulièrement le Zimbabwe aussi, mais qui est, évidemment est une façon de montrer que la Turquie veut être le maître dans cette région du monde. Pour une autre raison, je serai très bref, c'est que tout simplement, c'est dans cette partie de la Méditerranée qu'on a découvert les plus grandes réserves de gaz depuis bien des années, 50 milliards de mètres cubes, qui, entre guillemets, sont revendiquées par la Turquie et du reste, aux dépens de l'Égypte, aux dépens d'Israël, de Chypre, comme je disais, et bien évidemment de la Grèce.
Merci beaucoup, Emmanuel Dupuis. On comprend mieux, grâce à ces informations, un peu la géopolitique dans cette région. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. Encore grand merci, Emmanuel Dupuis. Je rappelle que vous êtes président de
l'IFSE.
Merci à vous. L'IFSE, c'est l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Voilà. N'hésitez pas à continuer le débat sur nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook, facebook.com/Journal des auditeurs. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du Journal des auditeurs. Demain, ce sera la libre antenne. Nous pourrons revenir sur ce sujet, mais aussi sur bien d'autres. Inscrivez-vous en laissant un message sur le répondeur au 33 1 55 07 58 05. À demain.